depuis ma dernière visite. C'était à cette occasion-là, et je suis impressionné de voir le bel outil que vous avez ici. Et vous avez devant vous un beau défi de remplir cette salle de jeunes pour louer Dieu et pour écouter sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre voisin parce que je viens de Paris 20e. J'habite à Saint-Fargeau et je suis membre de l'église de Paris Télégraphe. J'étais professeur à l'Institut biblique de Nogent pendant 15 ans et aujourd'hui je suis un heureux retraité. Alors je vais essayer de maîtriser toute cette belle technique. Je ne suis pas très doué. Ah, ça commence mal. Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que cette fois-ci, c'est pas moi. Ah, ça y est.
Ah, c'est bon, pour droite-gauche.
Droite-gauche. À droite pour avancer, hein, c'est ça? Oh, c'est parfait. Même si on a des parents chrétiens, on ne naît pas chrétien. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants qui un jour prennent conscience de leurs besoins de Dieu, qui tournent le dos à leur ancienne vie et crient à Dieu de les sauver et qui naissent de nouveau et deviennent membres ainsi de la famille de Dieu. Cela m'a fait un rude choc lorsque j'ai pris conscience à l'âge de 10 ans que je ne pouvais pas être petit enfant de Dieu. Jusque-là, je vivais de la foi de mes parents, mais j'ai compris ce jour-là que cela ne suffisait pas pour faire partie de la famille de Dieu. Il fallait que je me détermine personnellement et que Dieu me fasse naître de nouveau. Mais la foi chrétienne n'est pas seulement quelque chose qui se passe entre Dieu et moi. La foi se vit avec d'autres, en famille. Et pour accueillir le nouveau chrétien dans la famille de Dieu, il y a un cinquième moyen de grâce. Vous avez déjà parlé des quatre premiers. La parole de Dieu, la communion fraternelle, la prière, la Sainte Cène, le baptême. Vous les avez définis comme toutes les activités que Dieu utilise au sein de la communion de l'Église pour communiquer sa grâce aux chrétiens. Et si vous connaissez Dieu, vous savez que nous avons besoin de sa grâce pour vivre. Le baptême est donc, avec la scène, l'un des deux grands gestes de la vie chrétienne, institué par Jésus lui-même, signe visible d'une réalité invisible. Le baptême, c'est le rite d'introduction à la vie chrétienne, utilisant un symbole naturel et simple, qui permet à l'individu d'exprimer son engagement personnel à suivre Jésus-Christ et à l'Église locale de l'accueillir comme un membre de la communauté. Pour nous aider à comprendre sa signification, Paul écrit aux chrétiens de la ville de Colosse de cette manière. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, des juifs. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. À partir de ce texte, je voudrais souligner trois choses que je fais en recevant le baptême. Je témoigne de ce que Dieu a fait. Entouré par l'Église qui l'accueille, le baptisé confesse sa foi en Jésus-Christ qui est mort pour lui et affirme son désir de le suivre et de le servir. Il témoigne de sa reconnaissance à Dieu pour le salut, le pardon des péchés et la vie nouvelle dans l'esprit. Le baptême d'eau n'a pas de valeur en lui-même. Il ne lave pas le corps. Il ne purifie pas le cœur. Inutile de demander le baptême si on n'a pas encore fait l'expérience du salut, si on n'a pas connu la joie du pardon de ses péchés et si on n'a pas déjà reçu la vie nouvelle de l'Esprit. Le baptême est le signe visible d'une réalité invisible qui existe déjà. Ce que la Bible appelle baptême de l'Esprit. Alors, comment faut-il comprendre la relation entre baptême d'eau et baptême d'Esprit? Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Mes frères pentecôtistes croient qu'il s'agit de deux choses généralement distinctes. Le baptême d'eau, qui marquerait la conversion de la personne, et le baptême d'esprit, qui serait une expérience distincte, où la personne s'ouvre grand à l'action du Saint-Esprit et reçoit le parler en langue. Il y aurait ainsi des chrétiens de base, baptisés d'eau, et des chrétiens, qu'on pourrait dire supérieurs, baptisés de l'Esprit. Paul écrit cependant aux Corinthiens, « Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême. » Excusez-moi, tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons bu, nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne remets pas en question l'expérience pentecôtiste qui est donnée à certains. Mais je remets en question simplement leur façon de la présenter, en distinguant entre deux baptêmes. Paul écrit aux Éphésiens, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Pour moi donc, baptême d'eau et baptême d'esprit sont deux côtés de la même médaille. Il ne doit pas y avoir de baptême d'eau sans baptême d'esprit. Et s'il y a baptême d'esprit, c'est normal qu'il y ait baptême d'eau. Dans le baptême, je témoigne de ce que Dieu a fait. Ce témoignage de ce que Dieu a fait ne s'invente pas. C'est plus que du ressenti. Il doit se fonder sur un vécu. Et cette action doit déjà porter des fruits dans la vie du baptisé. Par le baptême d'eau, je témoigne au monde de ce que Dieu a fait, de ce baptême d'esprit que Dieu m'a fait vivre, de la joie du pardon et de ma reconnaissance pour la vie nouvelle qu'il m'a donnée. Et puis en deuxième lieu, je m'identifie à Jésus-Christ. Dans notre enfance, selon la mode de l'époque, nous nous sommes identifiés peut-être avec Superman ou Spider-Man ou Batman ou Pikachu ou la Reine des Neiges. Nous avons réclamé le costume et les accessoires de notre héros comme cadeau d'anniversaire ou de Noël. Nous nous sommes déguisés et nous l'avons imité dans ses moindres gestes. Et nous avons cru un jour que nous serions un super-héros comme lui ou elle. Dans le baptême, je ne me déguise pas, je ne joue pas un jeu et je n'essaie pas d'être ce que je ne suis pas. Mais je dis ma volonté, ma ferme volonté de m'identifier de très près à Jésus-Christ et de m'unir à lui. Je dis mon attachement à lui. Je dis que je veux lui donner la première place dans ma vie. Par le baptême, celui de l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul, je suis mis dans la tombe avec le Christ et avec lui, je suis réveillé de la mort. Et par le baptême d'eau, je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Baptême est la transcription française du mot grec baptisma. Et en grec, baptizo signifie plonger ou immerger. En me faisant baptiser, je fais un plongeon. Je m'immerge dans la vie de Jésus. Je m'identifie à lui. Je m'unis à lui. Un peu comme dans le mariage. Je m'unis à mon conjoint. Cela me marque profondément. C'est désormais par là que je me définis. Avant même d'être le fils ou la fille de mes parents, le conjoint de quelqu'un ou le parent de mes enfants, je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Dans l'Église, dans j'étais pasteur autrefois, nous faisions les baptêmes dans un baptistère en bois qui ressemblait à un cercueil. Vous allez me dire que cela ne fait pas très gai, mais le symbolisme était fort, car dans le baptême, en étant plongé sous l'eau, je m'identifie à Jésus dans sa mort. Je dis adieu à mon ancienne identité et à la personne que j'étais autrefois. C'est pour cela qu'on changeait autrefois de nom lorsqu'on se faisait baptiser et on prenait un nom chrétien. Je dis adieu à des idées, des attitudes, des paroles et des comportements d'autrefois qui ne correspondent plus à ma vie nouvelle en Jésus. Et que signifie-t-il de commencer une vie nouvelle unie à Jésus-Christ? Ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. Mes propres efforts sont voués à l'échec. J'ai besoin du don de Dieu, de la vie nouvelle. J'ai besoin de son esprit pour y arriver. Je m'engage sur une nouvelle voie. Je deviens une nouvelle personne. Je prends une nouvelle identité. Le baptême d'eau n'est pas fait pour de bons chrétiens, si cela existe, mais pour des pécheurs qui étaient malheureux et qui ont demandé à Dieu de les aider à changer. Le baptême n'est pas fait pour des chrétiens meilleurs que les autres. Le baptême est fait pour tous les vrais chrétiens. Ce n'est pas un diplôme de fin d'études. C'est une confirmation de notre inscription à l'école de la vie chrétienne. Ce n'est pas une récompense pour nos mérites. C'est un cadeau gratuit que Dieu fait à ceux qui reconnaissent leur besoin de lui. Ce n'est pas la preuve que nous sommes arrivés à destination. C'est le départ sur une nouvelle voie. Par le baptême, je dis mon désir de m'attacher fidèlement à Jésus-Christ et de m'identifier de plus en plus près de lui. Et par le baptême, je m'engage à vivre en disciple de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, « Vous avez reçu le Christ Jésus comme le Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. » C'est une autre façon de dire que, en nous faisant baptiser, nous nous engageons à vivre en disciples de Jésus-Christ. Cela comporte une dimension négative. Je renonce à tout ce qui est mauvais, à tout mal, à tout ce qui déplaît à Dieu. Je dis non à Satan et à tout ce qui fait partie du royaume des ténèbres. Je demande à Dieu de me libérer de tout ce qui me rend esclave. Mais cela comporte aussi, bien sûr, une dimension, et surtout une dimension positive. Je m'engage devant tous, avec l'aide de Dieu, à suivre Jésus, à vivre en disciple de Jésus, à le prendre comme mon maître, à être attentif à tout ce qu'il me dit dans sa parole, à lui obéir et à lui plaire en toutes choses, à m'attacher à tout ce qui est bien et à chercher à ressembler de plus en plus à Jésus. Certains choisissent de ne pas passer par les eaux du baptême car ils ne voient pas la nécessité du baptême d'eau. Ils disent que cela ne va rien changer à la relation qui vivent déjà avec Dieu. Mais Jésus nous a donné un exemple. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Jésus n'avait absolument pas besoin de ce baptême. Et Jean-Baptiste ne se sentait pas digne de le baptiser. Mais Jésus lui dit, « C'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Comment peut-on dire qu'on aime vraiment Jésus si on refuse de suivre son exemple? Il est souvent question de baptême dans la Bible. Nous savons que Jean-Baptiste baptise dans le fleuve Jourdain les foules qui répondent à sa prédication. Et les disciples de Jésus baptisent beaucoup de monde, même si Jésus ne baptise personne, semble-t-il. Nous savons encore que 3000 personnes se font baptiser par les apôtres le jour de la première Pentecôte chrétienne. Plus tard, l'apôtre Pierre fait baptiser Corneille, l'officier romain, et sa famille. Et l'apôtre Paul baptise le gardien de la prison de Philippe avec sa famille. Paul écrit aussi dans sa lettre aux Corinthiens qu'il a baptisé Stéphanas et sa famille. Mais en dehors du baptême de Jésus, le seul récit de baptême dans le Nouveau Testament est celui d'un haut fonctionnaire éthiopien. Cet homme a une telle soif de connaître Dieu qu'il fait le long voyage depuis son pays jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, il obtient une copie de la Bible telle qu'elle existait à cette époque. L'apôtre Philippe le voit dans sa voiture à cheval sur le chemin de retour, en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il lui demande s'il comprend ce qu'il est en train de lire. Le fonctionnaire est précisément en train de lire le chapitre 53 d'Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Et il veut savoir de qui le prophète Ésaïe parle ici. Philippe lui explique qu'il s'agit de Jésus, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, et comment il faut mettre sa foi en lui et s'engager à le suivre. Le fonctionnaire est émerveillé de découvrir cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Il voit un point d'eau là, au bord de la route, et demande à Philippe s'il ne veut pas le baptiser. Et c'est ce que Philippe fait. Tout simplement, sans attendre, il s'engage à suivre Jésus et il reçoit le baptême. Pas besoin de faire preuve de son sérieux, pas besoin de suivre un long processus de préparation. Aujourd'hui, c'est rare que le baptême se pratique de manière aussi spontanée. On juge généralement que c'est bon de prendre un peu de temps pour aider la personne à comprendre la signification de ce que Dieu a fait pour lui et du geste qu'il demande à faire. Mais il n'y a pas de raison de le faire attendre beaucoup. À une certaine époque dans l'histoire de l'Église, on soulignait beaucoup le symbole de la purification dans le baptême. Et là, les gens attendaient le dernier jour de leur vie pour se faire baptiser, car ils craignaient de pécher après le baptême. Mais cette idée-là était complètement sans fondement. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie de nos péchés. C'est le sang de Jésus versé sur la croix qui nous purifie jusqu'à la fin de notre vie. Donc, pour être baptisé, pas besoin d'attendre pour être parfait. Par le baptême, je m'engage tout simplement, avec l'aide de Dieu, à vivre en disciple de Jésus-Christ. Le premier jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus, je disais, l'apôtre Pierre prêche à Jérusalem et lance à la foule un appel pressant. Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Ce jour-là, en entendant le récit de ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix, beaucoup de cœurs ont été touchés et 3000 personnes demandent le baptême. Cet appel de l'apôtre Pierre retentit encore aujourd'hui. Alors, petit sondage, si vous me permettez. Combien de personnes ici ont déjà répondu à cet appel et sont passées par le baptême d'adultes? Vous voulez lever la main si c'est votre cas? Ok. Il reste encore des candidats pour le baptême. Si tu n'as pas levé la main, est-ce parce que tu résistes à cet appel de l'apôtre Pierre de changer de vie? Tu aurais du mal à faire confiance à la parole de Dieu? Ou tu jugerais que le coût d'un tel engagement est trop élevé? Ou est-ce que tu n'as pas levé la main parce que tu t'es arrêté à mi-chemin? Tu as été touché par l'amour de Dieu. Tu as reconnu ton besoin de lui. Tu l'as accueilli dans ta vie. Tu connais la joie d'être pardonné. Tu as reçu l'Esprit de Dieu qui apporte la vie nouvelle. Tu vis en chrétien, mais tu n'as pas encore témoigné devant l'Église de ce que Dieu a fait. Et tu ne t'es pas encore engagé publiquement à suivre Jésus-Christ. Quelle est ta situation par rapport au baptême? Il se peut que tu aies encore besoin d'un peu de temps pour voir clair. Si c'est ton cas, je te demande instamment aujourd'hui, ne laisse pas passer la journée sans demander à l'un des responsables de cette église de l'aide, afin qu'ils prennent du temps avec toi pour répondre à tes questions et pour t'aider à comprendre comment un jour tu dois répondre à cet appel. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Il se peut que tu as vécu la nouvelle naissance, mais tu es encore un peu jeune. Dans certaines églises, on baptise dès l'âge de 10 ou 12 ans. Mais personnellement, je recommande aux jeunes d'attendre 17 ou 18 ans afin que leur engagement ait le temps de mûrir. Si tu es dans ce cas, si tu dois attendre encore, ce n'est pas grave, mais ne laisse pas passer cette journée sans en parler à un responsable de l'Église de ton désir un jour de te faire baptiser et sans lui demander qui t'encourage à tenir ferme jusqu'à ce jour-là. Il se peut que tu as déjà vécu la nouvelle naissance et que tu as compris aujourd'hui que cet appel pressant de l'apôtre Pierre est aussi pour toi. Dans ce cas-là, ne laisse pas passer cette journée sans en parler à un responsable de l'Église et sans lui demander une préparation au baptême. Cela me donne l'impression que je suis vraiment très vieux, parce que c'était le dimanche 5 septembre 1965, alors que j'allais sur mes 17 ans, que j'ai reçu le baptême par immersion. Et je bénis Dieu pour ce signe fort de son action dans ma vie. Le baptême, c'est un cadeau de Dieu pour soutenir notre foi. Et par le baptême, il nous donne une belle occasion de témoigner de notre vie nouvelle devant l'Église, devant notre famille et devant nos amis. Et il donne à l'Église une belle occasion pour se réjouir. C'est la fête. Un jour de baptême. Les moyens de grâce sont comme des chèques que Dieu nous donne. Ils ne servent à rien si nous les laissons dans un tiroir ou dans notre portefeuille et ne les encaissons pas. Le signe du baptême est un beau moyen de grâce, un beau chèque que Dieu donne à tous ceux qui acceptent de changer de vie et de mettre leur confiance en lui. As-tu reçu ce chèque? L'as-tu encaissé? Si c'est non, quand est-ce que tu vas le faire? Prions ensemble. Cet appel retentit encore. Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Notre Père, donne-nous d'entendre ton appel et donne-nous de te laisser venir dans notre vie, pardonner notre péché et nous donner la vie nouvelle. Donne-nous de nous identifier avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et donne-nous de nous engager à le suivre fidèlement. Notre Père, nous te demandons de parler à chacun, que cette parole puisse continuer à faire écho dans notre cœur et dans notre tête, tout au long de cette journée, tout au long de la semaine qui vient. Et par ta grâce, que le 17 novembre 2019 puisse être un point marquant dans notre vie, en tout cas pour certains, le jour où ils s'engagent, où ils se décident à demander le baptême pour suivre Jésus fidèlement tout au long de leur vie. Oui, Père, touche les cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.